19h30. Donc vous proposez d'ouvrir cette séance du conseil municipal. Est-ce qu'on m'entend bien ?
J'ai l'impression que les gens.
Non. Est-ce que nous aurions un technicien dans la salle pour.
Je ne suis pas technicien, mais.
Nous avons un technicien ultra polyvalent. Un petit essai de réglage de sonorisation. Ouais, notre sauveur. C'est mieux ? Bon, allez, c'est parfait. Ça marche comme ça. Il suffit de ne pas parler trop fort dans le micro. Tout va bien. Merci Morgane, merci Moussa. Bien. On va commencer par faire l'appel. Je suis présent. Clotilde de la Goutte. Alain Deller.
Présent.
Stéphanie Charret est absente, excusée, représentée par moi-même. Didier Moreau est absent, excusé, représenté par Michel Veux. Et Marina Descobelli est absente, excusée, représentée par Clotilde Delagoutte. André Palancade, Anne-Marie Aulas, Claude Godard, Sylvie Galochet. Et je vous propose de la nommer secrétaire de séance. Il y a des oppositions, des abstentions, des faits. Roger Cypré, Samira Bougili me semble absente, Jacob Naolouna est absent, excusé, représenté par Sylvie Gauchet, Simone Giraud, Charles Murat, Virginie Salitra est absente, excusé, représenté par Mehdi Bensalem, Karine Jarry, Michel Veux, Daniel Boudet, Pascal Huet, Sandrine Nagel,
présent.
Mehdi Bensalem,
présent.
Jean-Pierre Gabarou,
présent.
Monique de Villene,
présent.
Catherine Eusdeviès, Serge Saussier, Rachida Moigny me semble absente, Stéphanie Chute et Angélique Rabaille. Voilà. Le quorum est atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Alors, nous avons à approuver ou pas donc, le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 15 avril 2019 qui s'oppose à cette approbation. Vote 6 qui l'approuve. On doit faire 21 voix. Y a-t-il des questions concernant les décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, du numéro 25 au numéro 31 ? Je n'en vois pas. Concernant les conventions signées, du numéro 36 au numéro 52, il n'y en a pas non plus. Donc nous allons attaquer l'ordre du jour avec la proposition des délibérations. Allez, première délibération pour se soigner un peu. Donc, une proposition de vœux relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé. Et c'est M. Cypré, qui nous la présente.
Merci, Monsieur le maire. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, Ma Santé 2022, prévoit de nombreuses dispositions impactant les communes et intercommunalités sans que les élus locaux ne soient associés à la gouvernance des politiques de santé. Les regroupements et fermetures d'établissements de santé publique illustrent l'absence de concertation et le sentiment d'abandon des territoires. Sur initiative de la Fédération hospitalière de France qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3000 établissements sociaux et médico-sociaux publics, et avec le soutien de l'Association des maires de France, il est proposé au Conseil municipal de débattre de ce vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé. Considérant que les inquiétudes Nicolas a exprimé dans le pays ces dernières semaines illustre à nouveau un sentiment de fracture territoriale et sociale dans l'accès aux services publics dont la santé est un des piliers. Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d'une offre insuffisante de services de santé aggravée par l'existence de freins à la coordination entre l'ensemble des acteurs de santé. Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner pour des raisons d'accessibilité tant économique que géographique. Considérant que l'accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens, qu'il s'agit d'un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits permettant notamment un frein à une prise en charge optimale des urgences. Considérant que la réforme du système de santé de la santé 2022 n'a fait l'objet d'aucune concertation mais d'une simple consultation réservée aux spécialistes et experts et qu'elle a omis d'intégrer les élus locaux, notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l'organisation territoriale des soins du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l'évolution du système de santé et sont acteurs de changement. Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité des soins pour tous, sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le Conseil municipal de Nangis souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé. Le Conseil municipal de Nangis demande donc que la réforme du système de santé prenne en considération les 7 enjeux suivants. Le premier, la lutte contre les déserts médicaux et la garantie d'une offre de santé de proximité, en particulier en zone périurbaine et rurale adaptée au territoire. Deux, la garantie d'un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par les mécanismes efficaces de solidarité. Trois, la fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d'une réelle prise en compte des spécificités de chaque territoire dans l'organisation des soins. 4. Une association véritable et sans délai de l'ensemble des acteurs concernés, élus, représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc., à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale des soins. 5. La mise en œuvre d'outils d'incitation et de financement propices à une implantation équitable des services de santé dans les territoires et une meilleure coopération entre tous les établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut, afin d'assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 6. Le maintien et le renforcement d'un service hospitalier et médico-social au service de tous les patients qui disposent des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ces missions de soins, de recherche et d'enseignement et pour investir, afin d'accompagner l'évolution indispensable des structures et l'accès de tous à l'innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge. 7. La fin de toute direction arbitraire sans concertation avec les élus locaux visant à fermer les services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l'attractivité des métiers et hospitalité et du secteur social-économique. Après en avoir délibéré, article unique autorise le maire à intervenir auprès du président de la République, du Premier ministre, de la ministre des Solidarités, de la Santé, de l'ensemble des autorités de l'État pour faire valoir ses demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. Je vous remercie.
Petite modification, on ne demande même plus de l'inscrire dans les échanges locaux du niveau national puisqu'il est clos. Hein, donc, ceci pour vous rappeler que cette proposition de vœux avait été faite par la Fédération hospitalière de France et par l'Association des maires de France dans ce cadre-là. Mais depuis, je dirais même que les réponses qui nous sont proposées ne satisfont d'ailleurs aucun des huit enjeux. D'ailleurs, c'est pas 7 enjeux, c'est 8 enjeux qui ont été développés ici. Donc voilà. Donc, l'article unique est un petit peu plus court, mais conserve plus de sens. Il s'agit de. Voilà. Avec toutes les collectivités qui en feront de même, d'essayer de se faire entendre pour que ces principes soient respectés, surtout pour que les élus locaux ne soient pas mis de côté lorsqu'il s'agit de définir une politique locale de santé, de territoire, comme c'est encore le cas aujourd'hui, comme nous l'avons vu très récemment. Je rappelle que nous avons appris par la presse que notamment l'hôpital Léon Binet de Provins devait créer son propre groupement hospitalier à lui tout seul, puisque ce sera le premier groupement hospitalier de France où il n'y aura qu'un seul établissement hospitalier. En général, les groupements ressemblent à plusieurs établissements hospitaliers, mais celui de Provins, non, il est présenté comme étant finalement une nouvelle forme de groupement où seraient regroupés autour de l'hôpital notamment les établissements médico-sociaux, les EHPAD par exemple, et pourquoi pas des cabinets pluridisciplinaires, médicaux pluridisciplinaires. On n'en sait pas plus à ce stade-là, mais avant qu'il y ait eu la moindre concertation, et par exemple le président du conseil d'administration de l'EHPAD des Patios à Nangy, où je suis, a appris par la presse que l'EHPAD des Patios ferait partie de ce groupement. Voilà, c'est juste pour illustrer, je n'en reviens pas sur les termes mêmes d'ailleurs de ce groupement, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant, ça inquiète beaucoup les personnels de l'EHPAD des Patios, vous l'avez vu, mais en toute cause, la concertation, on l'a provoqué après, hein, un tout petit peu, donc vraiment sur ces problématiques-là, et puis après les principes que l'on veut voir appliquer. Je rappelle que ce sont des principes que je partage pleinement, bien que je ne peux pas tout à fait qualifier la Fédération hospitalière de France qui est présidée par le maire de Fontainebleau ou l'Association des maires de France qui est présidée par le maire de Troyes, l'association très gauchiste. Elle rassemble en général pas mal de courants en leur sein. Qui souhaite intervenir sur ce sujet ? Il fait consensus. Je mets aux voix ce vœu. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, délibération 2019-80, il s'agit d'approuver définitivement le règlement local de publicité. Donc, nous en avons déjà pas mal parlé. Pas dire que ça a déclenché la passion populaire et voilà, je rappelle simplement que faute de règlement local de publicité, c'est le règlement national de publicité qui s'applique ici et qui nous semblait quand même donc nécessaire de localiser un certain nombre de réglementations à notre territoire qui est un territoire un peu particulier, hein, donc une petite ville au milieu d'un secteur rural, des quartiers qui sont en développement futur, des zones économiques, des zones commerciales, du résidentiel, du résidentiel ancien, du résidentiel collectif. Voilà, donc nous avons, je ne vais peut-être pas rappeler tous les objectifs fonctionnels, qualitatifs que nous avons déjà évoqués, sauf si vous le souhaitez. Hein, donc on peut tout à fait reprendre le règlement local de publicité tel qu'il nous a été transmis. Simplement indiquer quelques modifications qui ont été apportées pour donner satisfaction au commissaire enquêteur qui, après avoir pris l'avis d'un certain nombre de partenaires, avoir entendu quelques habitants a fait quelques recommandations où nous a demandé très explicitement de modifier le règlement. Par exemple, il nous a demandé de limiter à 4 mètres carrés la surface de la publicité murale en zone d'habitat. Alors, c'est vrai que nous ne l'avions pas fait parce qu'avoir des espaces de 4 mètres carrés dans ces zones-là, c'est pas forcément simple, mais bon, nous le demandons, on propose effectivement de retenir sa proposition. Donc les surfaces de publicité en zone d'habitat ne pourront pas être supérieures à 4 mètres carrés en un seul panneau. Ça fait déjà un très très beau panneau. Je rappelle pour le public, comme nous sommes une commune de moins de 10 000 habitants, ici, dans notre commune, sur l'ensemble du territoire, les fameux grands panneaux, les 4 par 3, qui font 12 mètres carrés, donc ne peuvent pas être implantés. Donc il nous reviendra au moment où l'Angie dépassera les 10 000 habitants de réviser ce règlement local de publicité pour savoir si on les autorise ou si on continue de les interdire, ce qui sera possible dans le règlement local, alors que le règlement national, lui, l'autoriserait de fait. Le commissaire enquêteur nous a demandé de limiter à 2 enseignes au sol dans les zones d'activité et les zones de commerce. Bon. Propose là aussi de retenir sa proposition. Il nous a demandé de supprimer des annexes, un arrêté, l'arrêté 2016, ST, FK, VB, 867, qui concerne les limites d'agglomération, non pas sur la route départementale 419, qui ne passe pas par Nangy, mais bien la route départementale 619, puis d'abroger l'arrêté. Cet avis arrêté aujourd'hui, effectivement, la limite a été déplacée depuis. Et puis, alors, surtout, donc on ne le met pas dans les annexes et on prendra la décision, bien entendu, de l'abroger. Beaucoup de nos partenaires nous ont indiqué que nous prévoyons beaucoup trop de zones différentes. Nous en avions prévu 9. Ce n'est pas illégal. Voilà. Rien n'indique d'ailleurs qu'il y a une limitation du nombre de zones, et puis nous avons un territoire qui est effectivement qui est très, très divers. Mais bon, nous en prenons acte, et donc nous allons réduire le nombre de zones de 9 à 5, mais à l'intérieur de certaines zones, nous allons créer des sous-secteurs. Donc, en fait, il y aura probablement quelque chose qui ressemblera à neuf secteurs. Qui peut le plus que le moins. C'est vrai que entre la rue commerçante, la rue Jean-Leclerc, la place du Pompéreau, où il y a besoin effectivement d'enseignes, il y a besoin de publicité, et puis la rue Noas, par exemple, il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir tout à fait la même réglementation. Donc avoir de trop grands secteurs permettent ou de restreindre trop là où il y a besoin d'enseignes et de publicité, ou d'ouvrir trop là où il n'y en a pas forcément besoin. Donc voilà, il y aura un secteur centre-ville par exemple, mais dans le secteur centre-ville, il y aura une zone centre-ville, il y aura peut-être que ce secteur de façon à tenir compte des spécificités. Bon, on nous a demandé de ne pas retenir qu'une seule couleur pour les pieds des panneaux publicitaires. Donc du coup, nous proposons la couleur gris et la couleur des teintes de gris ou des teintes de vert qui se rapprochent aujourd'hui des choix de mobilier urbain existant. On évitera peut-être le rouge, le jaune citron, des choses qui sont un peu neutres, mais tout en étant des couleurs neutres et élégantes. Il faut le faire. Afin de se conformer à la législation sécurité au travail, il sera indiqué dans le règlement lorsqu'elles sont visibles de la voie publique, les passerelles sont interdites. Les passerelles sont toutefois mises lorsqu'elles sont intégralement repliables et demeurent pliées en l'absence de personnes chargées de les utiliser. Alors là, c'est un dispositif qui ne concerne que les panneaux 4x3, donc il n'en existe aujourd'hui aucun sur le territoire. Il n'y a pas d'autorisation qui en existe, mais pour se conformer à la législation, il faut quand même spécifier, c'est un peu étonnant, on le fait. Bon, il y a aussi beaucoup de panneaux 4x3 qui n'ont pas de passerelle. Et puis un certain nombre, effectivement, lorsqu'ils sont un peu en hauteur, il y a une passerelle qui permet aux couleurs d'affiche de pouvoir faire son travail. Et donc là, on demandera, conformément à la loi, que ces passerelles soient amovibles et qu'elles ne détériorent pas plus le paysage que les panneaux publicitaires eux-mêmes. On va effectivement être bons élèves, on propose donc de l'ajouter. Et puis, il nous a été demandé de modifier certains termes, notamment la modification de la définition de la clôture. Nous allons remplacer celle que nous avions choisie par celle qui est issue du guide pratique sur la réglementation de la publicité extérieure réalisée par le ministère. Bon, le ministère a réalisé un guide et je pense qu'il souhaite que nous l'utilisions nous-mêmes. Donc, ça ne change pas grand-chose, hein, honnêtement. Donc voilà les suggestions, les ajustements qu'on propose d'accepter. D'autres suggestions présentées par les services de l'État, du commissaire enquêteur ou des publicistes ont été écartées. Par exemple, limiter le nombre d'enseignes perpendiculaires pour les bureaux de tabac, les maisons de la presse, ça ne nous semble pas une excellente idée parce qu'ils ont des contraintes. Voilà, un bureau de tabac, bah, il a l'enseigne, il a le cigare. En règle générale, il a l'enseigne de la Française des Jeux. Et puis, s'il veut avoir son enseigne, très honnêtement, ce ne sont pas des enseignes de très, très grand gabarit. Les limiter peuvent effectivement porter à atteinte à des activités qui aujourd'hui ne sont pas toujours en pleine forme. Donc nous proposons de ne pas limiter le nombre d'enseignes spécifiquement donc, à ce type d'activité. Et puis nous ne comprenons pas du tout la demande qui est faite par le commissaire enquêteur de supprimer l'obligation de monopied pour tous les supports de publicité. Je pense que le fait d'avoir un monopied est un tout petit peu plus esthétique que laisser la possibilité d'en avoir deux, d'en avoir quatre. Le commissaire enquêteur nous propose simplement d'inciter le monopied, mais je ne sais pas faire, moi, inciter le monopied. Ou on l'exige et ça sera un monopied, et autrement, si on dit il vous a vivement conseillé de ne mettre que des panneaux en monopied, on sait que c'est un petit peu plus cher, on a de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Je vous propose de ne pas retenir cette proposition du commissaire enquêteur. Voilà où on en est sur la fin de ce débat qui va nous permettre donc de mettre en place un règlement local de publicité. Des questions, des interventions. Monsieur Départ, je vous donne la parole.
Bonsoir, monsieur le maire. Simplement sur l'alinéa numéro 3.
Changer lorsque la Grande Plaine va se construire. On a une demande effectivement du département qui est d'inclure dans le périmètre urbain le rond-point qui va être réalisé sur le département de la 408. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas encore réalisé. Dès que le rond-point le sera, effectivement, on sera amené à modifier donc, la limite complètement différente de la. Et non. le domaine, mais il y a, voilà, il y aura à étendre le périmètre du règlement local de publicité donc à ces zones lorsqu'elles vont commencer effectivement à se développer. On ne peut malheureusement pas le faire par anticipation, même si on a un zonage connu, on va le faire au fur et à mesure. Oui, M. Saussier, je vous donne la parole.
Oui, monsieur Léon, donc avoir un règlement local de publicité, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Donc, dans cette question, j'imagine que ce sont les services de police municipale qui sont chargés de vérifier si les dispositifs de publicité sont conformes au règlement de publicité. Donc, un règlement de publicité, c'est relativement complexe et j'imagine que les services municipaux ont des tâches qui les occupent, je dirais, à plein temps. Donc, voilà, comment envisagez-vous, je dirais, le contrôle de ces dispositifs de publicité? Quels seront derrière, les contraintes? Est-ce qu'il y a des amendes qui sont prévues? Quel sera le régime qui s'appliquera aux dispositifs qui seront en contradiction par rapport au règlement local? J'irai aujourd'hui, il suffit de se déplacer dans l'Angie et on voit un certain nombre de petites affiches, etc., qui ne sont pas conformes d'ailleurs au règlement local de publicité et au règlement national de publicité.
Oui. Parfaitement raison d'insister sur ce sujet, parce que à partir du moment où on dépend du règlement national de publicité, je n'ai pas de pouvoir pour faire appliquer le règlement national. Mais non. Donc ce sont les services de l'État qui ont à le faire et qui le font comme ils peuvent. Donc, le règlement local de publicité nous permettra d'essayer de faire un peu mieux. Donc ça s'applique comme un plan local d'urbanisme, c'est-à-dire que tout nouvel espace publicitaire devra faire l'objet d'une autorisation qui sera donc étudiée par le service urbanisme. Et en ce qui concerne, les dispositifs qui ne seraient pas conformes ou qui auraient été installés de façon sauvage, ce sera une collaboration entre la police municipale et le service d'urbanisme. Et de la même façon, c'est comme les infractions au PLU, une fois qu'elles sont dûment constatées, on demande dans un premier temps donc aux propriétaires du dispositif de bien vouloir se conformer à la réglementation, et s'ils s'y refusent, il y a une procédure auprès des services du procureur de la République pour demander réparation du préjudice qui serait commis auprès de la commune. Donc voilà, c'est pas plus compliqué qu'un PLU. D'ailleurs, si vous regardez bien le document, on a beaucoup repris des éléments de cohérence avec celui-ci.
Y a-t-il dans le règlement local une obligation de déclaration d'installer une publicité? Je ne suis pas certain.
Si, c'est pour ça qu'il y a un règlement local.
Dans le règlement national, il n'y a pas d'obligation de déclarer une installation publicitaire. Et je ne suis pas certain, à moins que vous donniez, les éléments contraires, qu'il y ait obligation dans le règlement local de publicité d'obligation de déclaration d'installation.
C'est une obligation de déclaration, c'est une obligation de demande d'autorisation. C'est la déclaration et les demandes d'autorisation, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de déclaratif, effectivement. Non, c'est de ce point de vue-là. Voilà. Alors après, nous verrons bien comment les choses se passent. Ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Voilà. Hein, donc, on a des 4 par 3 qui étaient sur des routes départementales qui sont restées en place durant des années. Hein. Il nous est arrivé de signaler au service de l'État qu'il y avait des dispositifs qui n'étaient absolument pas conformes, sur la 619 par exemple. Donc voilà, donc ça ne devrait pas nous demander beaucoup plus de travail que ce que nous sommes retrouvés avec 2 dispositifs parallèles et qui ne fonctionnent absolument pas du tout de la même façon. Le jour de 40, c'est vous êtes absent pour la durée, que ce soit pour un jour, 2 jours, que ce soit 3 mois, il vous est retiré 1/30 de votre salaire. Donc ça a des effets. Je considère que ce n'est pas forcément un excellent dispositif, mais c'est avéré que celui que nous avons mis en place n'était guère meilleur. Je m'explique pourquoi. Après avoir vu fonctionner pendant 1 mois, on s'est aperçu qu'il avait essentiellement affecté des agents qui étaient en longue maladie ou en maladie de longue durée. Et il y a eu des retraits sur traitement extrêmement importants par rapport donc à des agents qui eux-mêmes étaient en grande difficulté. Puisqu'on ne peut pas distinguer le congé de maladie ordinaire du congé de maladie de grave maladie et de congé de longue durée. Ce sont des dispositions réglementaires qui ne peuvent pas se dissocier. Donc c'est la raison pour laquelle, 1, pour faire court, nous renonçons à prélever le régime indemnitaire au-delà du 10e jour d'absence, puisque les résultats ne sont pas du tout probants. Par contre, nous mettons en place un CIA qui, donc, apportera donc une prime aux agents qui auront été présents en totalité ou au maximum avec 5 jours d'absence. Donc, ce qui est aussi une façon un peu d'équilibrer la mise en place aussi du jour de carence qui frapperait, je dirais, des agents qui ont eu très peu d'absence dans l'année. Et ça arrive effectivement qu'on ait une angine, qu'on ait un début de grippe. Et il vaut mieux dans ces cas-là d'ailleurs éviter de venir travailler. Hein, parce que ça permet d'éviter que la situation de santé s'aggrave, voire même, si on n'est pas sûr, de venir travailler avec une maladie contagieuse, ce qui aura un effet encore plus terrible sur l'organisation des services. Donc voilà, en gros, vous allez me dire, c'est tout ça pour ça, oui, mais ce sont des choses importantes dans les rapports qui nous lient aux agents, et cette proposition a été adoptée à l'unanimité par le comité technique. Un peu assommant tout ça, mais... Y a-t-il des questions, des réactions? Eh bien, je mets la délibération. On voit qui s'y oppose, qui s'abstient. Allez, donc adopter l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, la 82, nouvelle modalité de rémunération des assistantes maternelles.
Oui, là encore, 2 nouvelles modalités, mais qui vont là encore dans le bon sens. Le législateur a organisé de manière globale les conditions d'agrément, de formation et de rémunération des assistants maternels dans un ensemble de règles issues du Code de l'action sociale et des familles, du Code du travail et du Code de la santé publique. Pour certaines dispositions, les assistants maternels relèvent également du décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Une délibération de 2007 fixait les modalités de rémunération des assistants maternels conformément à ces textes. Or, il apparaît que la plupart des éléments sont calculés en référence au taux horaire du SMIC et du minimum garanti. Par conséquent, en dehors de la revalorisation annuelle du SMIC, la rémunération des assistants maternels n'a pas évolué depuis 2007. Il est donc proposé de revaloriser les éléments de la rémunération principale hors indemnité à hauteur de 2,5%. Ces modalités ont été présentées au comité technique dans la séance du 19 avril 2019 qui a émis un avis favorable à l'unanimité.
Un petit rappel. rappel par rapport à la situation qui avait trop peu évolué. Des questions et réactions ? Madame Zevietti, je passe le micro. Je vous donne la parole aux collègues qui vous passent le micro.
Bonsoir, monsieur le maire. Concernant donc cette délibération sur les modalités de rémunération des assistants maternels, nous aimerions avoir des précisions sur la suspension de l'agrément. La suspension peut être demandée donc au président du département en cas de manquement grave. La durée maximale est de 4 mois, le temps des investigations. Il est indiqué qu'une indemnité compensatrice est versée à l'assistant maternel en cas de suspension de l'agrément. Ça semble curieux d'avoir une indemnité compensatrice. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Et enfin, dans l'objet, vous indiquez assistante maternelle. Et après, dans tout le corps de la délibération, il est mentionné assistant maternel. Donc, il suffirait de...
Bon, pour la deuxième partie, on va pouvoir vous donner une satisfaction aisément. Quelqu'un veut vous répondre ? J'ai pas bien compris quelle était votre point d'interrogation. À partir du moment où une assistante maternelle est suspendue, une forme de régime indemnitaire, en fait, le SCOI également, ne me paraît pas. On verse une indemnité compensatrice pour quelle raison ? On est dans un système extrêmement contraint. Vous savez qu'il suffit par exemple juste d'une dénonciation anonyme. Avec un bout de papier qui arrive à la gendarmerie en disant Madame Machin, j'ai vu Madame Machin frapper, ou le mari de Madame Truc a un comportement étrange, il est automatique qu'il y ait une suspension de l'activité et que l'enquête soit diligente. Moi, j'ai vu, y compris dans des communes voisines, comme ça, des familles d'accueil se retrouver à 6h du matin avec l'intervention des gendarmes. On retire tous les gamins et l'enquête va... en fait, vous n'êtes pas peut-être quelque part présumé coupable dans ce système-là. Dans le cas de cette famille-là, d'ailleurs, l'enquête de gendarmerie a conclu à l'absence de charge. Et l'enquête administrative qui a été plus longue, 2 mois de plus, a finalement donc réintroduit la famille d'accueil dans ses droits. Mais ça a été au bout de 6 mois. Donc du coup, au bout de 6 mois sans aucune rémunération. Voilà le principe un peu qui peut effectivement paraître étonnant, mais il n'y a pas de condamnation. Hein. Vous êtes dans une période finalement où on pourrait dire vous êtes. Ou témoin assisté ou avant même d'être mis en examen, mais vous n'avez plus le droit de travailler. Et donc vous pouvez mettre en péril effectivement tout l'équilibre simplement pour une présomption.
Mais parce qu'elles n'ont pas le droit au chômage, des choses comme ça, enfin, les assédites, des choses comme ça, elles n'ont pas le droit.
Là, elles ne sont plus, elles ne sont pas licenciées, en fait, elles sont suspendues dans leur activité. Hein, voilà. Madame Giraud, passe la parole.
Oui, c'est pas un licenciement, c'est une suspension. Donc c'est pourquoi elle n'a pas droit aux indemnités de chômage ni rien du tout, puisqu'il n'y a pas licenciement. Là, c'est simplement en attendant que ça soit. C'est le règlement qui est comme ça.
Après, l'enquête peut conduire effectivement à des causes où le licenciement sera prononcé. Ça arrive, hein. Bon, on voit tous les jours des cas absolument dramatiques. Ça cache quand même la forêt de l'immense majorité des assistants ou des assistantes maternelles qui font quand même très très bien leur travail. Mais les services de protection de l'enfance n'ont pas d'autre solution que de suspendre dès qu'il y a un doute. C'est terrible, hein, il n'y a pas d'éléments de preuve. La plupart du temps. Alors c'est délicat, hein, quelquefois, on vous dit, ah oui, mais si les services de protection avaient pris des dispositions en amont, quand il y a doute, c'est extrêmement délicat. Mais c'est la protection de l'enfant qui va effectivement prévaloir.
Oui, par contre, si la faute est avérée, on a versé l'indemnité.
On ne les récupérera pas. Il faut que la sanction tombe et que la personne soit condamnée. Alors, sauf si elle est aussi condamnée, ben, c'est des dommages et intérêts à la collectivité. Je pense que la collectivité peut sans doute se porter partie civile, comme lorsqu'il s'agit d'un exercice libéral, les familles peuvent se porter partie civile et obtenir des dommages. Ce sera une forme de compensation, mais par contre, ça ne sera pas un remboursement de l'indemnité compensatrice. D'autres questions ? Non, je passe aux voix. Donc, qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci pour les assistantes maternelles. On n'a pas d'assistant maternel, hein, c'est que féminin. Et donc, on est dans. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de masculinisation de la profession en disant il pourrait y avoir des hommes. Et il y en a un peu. Hein, un petit peu.
Voilà.
Mais en tous les cas, mettre en cohérence. Alors, les délibérations 83 et 84, ce que je propose de les discuter ensemble, portent sur des avenants de réaménagement de prêts qui ont été donc accordés à des bailleurs sociaux. En l'occurrence, il s'agit de 1000 vies habitat, anciennement le logement francilien. Pour la réhabilitation des logements de la main reculée. Madame Jérôme, je vous passe la parole.
La décision du gouvernement de faire des économies budgétaires sur les aides personnalisées au logement, les APL, en demandant aux bailleurs sociaux de compenser cette baisse par une réduction équivalente de leur loyer, va limiter de 75% leur capacité d'investissement, c'est-à-dire de construire et de rénover. Mais pour tenter de calmer cette mauvaise décision, on autorise l'allongement des emprunts et donc la demande à la ville de garantir les 10 ans supplémentaires. C'est le propos des deux prochaines délibérations. Je vous lis la première. Par courrier du 6 mars 2019, 1001 Vie Habitat sollicite la commune de Nangy afin d'allonger de 10 ans la garantie d'emprunt pour la réhabilitation du bâti de 242 logements 6 la Marocurée à Nangy. Cette demande est formulée du fait de la mesure de réduction de loyer de solidarité, le RSF, prévue par la loi de finances pour 2018, mesure qui impacte fortement les ressources du secteur du logement social. Afin de limiter l'impact de cette mesure gouvernementale dans les prochaines années, la Caisse des dépôts et consignations offre la possibilité d'allonger certains prêts contractés auprès d'eux. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder l'allongement de la garantie d'emprunt sur la nouvelle durée d'amortissement du prêt réaménagé. Je lis la deuxième et on votera les deux.
Oh, faut-il la lire ? C'est la même chose. Et donc sur un autre prêt qui concerne davantage de logements à réhabiliter, il s'agit de la totalité, les 687. Voilà. Nous avons garanti ces prêts pour une durée. On nous demande bien entendu de continuer de les garantir pour 10 ans de plus.
La seule autre chose qui me dérange, c'est la Marocurée. C'est tout le temps écrit avec ES, alors que c'est ES.
Et oui, encore bon, c'est un débat que nous avions, qui n'est pas vraiment tranché d'ailleurs, les deux ordres. orthographes sont admises. Mais bon, on a toujours dit qu'aller pour aller une position politiquement correcte, qu'on mettait EES. Voilà. Mais je pense que 1000 et une vie habitat met la barre au courant comme ça. Voilà. Donc on corrigera dans les délibérations et on remettra la mare au curé en relation avec la chasse et pas la mare où le curé allait se promener.
Ouais. Et alors ?
Ah, ben après, libre cours à votre imagination.
On a beaucoup de...
Enfin, je ne sais pas, c'est beaucoup de chasse à court autour de... Voilà. Je ne sais même pas quelle était la taille de la mare à ce moment-là. Bien, mis à part cela, je peux mettre en voie ces deux délibérations. Qui s'y oppose, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 85, il s'agit de la mise en place d'une dégressivité relative aux fratries sur les tarifs des séjours vacances hiver-été organisés par la ville. Madame Boudel, je vous donne la parole.
Depuis le 1er janvier 2018, en application des nouvelles modalités de calcul du quotient familial...
Il faut vous rapprocher le micro de votre bouche.
La participation des familles pour les séjours, vacances hiver et été a été redéfinie comme suit. Donc vous avez donc 5 tranches, plus je vais pas les lire les enfants, et plus les extérieurs pour les séjours d'hiver, et 6 tranches plus les extérieurs pour les séjours d'été. Dans la mesure où les inscriptions de fratrie sont fréquentes, le comité de la Caisse des écoles a décidé d'appliquer une dégressivité des tarifs pour celle-ci concernant les séjours de classe de découverte. Afin d'harmoniser la politique tarifaire de ces séjours, il est proposé au conseil municipal d'appliquer la même dégressivité pour les séjours d'hiver et été, toujours dans le but de faciliter le départ de plusieurs enfants d'une même famille, à savoir un abattement de 10% si deux enfants d'une même famille partent, 20% s'il y a trois enfants et 30% s'il y a quatre enfants.
Merci Madame Boudet. Je me permets, puisqu'il va y avoir le tableau qui doit être affiché, peut-être qu'on peut redescendre un tout petit peu, pour revenir sur une réalité qui touche à la tarification de toutes nos activités, particulièrement lorsqu'elles sont en rapport avec les enfants et les jeunes, que l'on soit riche ou pauvre à Nangis, la collectivité aide toutes les familles. Ne l'aide pas de la même façon, d'une façon effectivement dégressive, il y a des aides plus importantes pour les familles, je dirais, les moins fortunées. Mais même quand vous êtes dans la cinquième tranche des séjours d'hiver ou dans la sixième tranche des séjours d'été, eh bien, vous avez une participation de 5% pour les séjours d'hiver, on aide un tout petit peu moins, et de 30% malgré tout pour les séjours d'été. Je dis, c'est la même chose par rapport à la restauration scolaire, à l'accueil post-scolaire, etc. Je dis parce que je l'entends moins, mais il fut un temps, j'entendais dire à Nangis, les riches payent pour les pauvres. Non, c'est la collectivité, ce sont les contribuables qui font collectivement un effort et qui permet d'avoir des actions éducatives importantes et de qualité. Donc je voulais juste vous faire remarquer ce point. Madame Lagoutte.
Oui, juste pour compléter votre propos, monsieur le maire, évidemment, les tarifs des centres de loisirs sont les mercredis et vacances scolaires. Sont aussi de façon dégressive, il y a aussi une aide en fonction des fratries. Donc bien entendu, toutes les familles, aussi à la communauté de communes, ne payent jamais le vrai tarif de ce que peut coûter une journée en centre de loisirs, qui est à peu près normalement 30 euros la journée, donc on ne paye jamais ce tarif-là. Et pareil pour les séjours été en centre de loisirs, de même, les familles ne payent jamais la totalité du séjour, de ce que ça coûte réellement. Et je comptais aussi préciser que la ville de Nangis aide toujours en plus les familles nangiciennes qui partent en séjour été via la communauté de communes et qui fréquentent les centres de loisirs. Nangy apporte encore une petite aide supplémentaire aux familles nangiciennes.
Merci. Une illustration, bon, on aide moins les séjours que la restauration scolaire, évidemment, mais tout confondu, la participation des familles au coût de la restauration scolaire, c'est 40% du total. Donc, je dis parce qu'il y a des tas de collectivités qui font beaucoup de publicité autour des mesures, donc le repas à 1 euro, nous on a des familles qui payent moins d'un euro. Nous on considère ici que l'effort doit être aussi proportionné et que l'idée d'avoir un tarif unique alors qu'on a, on peut avoir quand même des différences de revenus considérables n'est pas notre choix. Mais globalement, la collectivité subventionne les repas au restaurant municipal à hauteur de 60%. Important aussi de temps en temps de le redire. Donc voilà, donc là on applique une incitation supplémentaire à envoyer des enfants en séjour de vacances collectives. On a beaucoup, comme dans beaucoup de collectivités, on a considérablement réduit l'envoi de ces enfants-là. On a un petit peu plus développé les courts séjours avec les accueils de loisirs, mais il y a encore beaucoup de réticence à laisser partir son enfant loin de la famille une semaine, 15 jours. Voilà, donc si ça peut inciter, on sait d'ailleurs, on sent ces incitations-là, on a déjà rempli le séjour d'été. Bon, éventuellement, on peut encore renégocier quelques places auprès des organismes que nous travaillons, mais bon, petit signe peut-être que ça s'améliore. D'autres commentaires, des questions? Je mets au voix cette délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer à la délibération 86, concerne donc la convention d'objectifs et de financement de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne relative à la prestation de services d'un établissement d'accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans. Et ça pour les années 2019 à 2021. Madame Jérôme, je vous redonne la parole.
Merci, monsieur le maire. Dans la continuité du partenariat établi entre la commune de Nangy et la Caisse d'allocation familiale, la CAF de Seine-et-Marne, par délibération du conseil municipal numéro 2016-avril-040 du 4 avril 2016, il est proposé à l'Assemblée délibérante de le renouveler pour la période 2019-2021. Pour rappel, ce partenariat porte sur les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service unique, la PSU, octroyée au titre de la gestion de la structure du multi-accueil, la farandole de la ville de Nangy. Aucune modification n'est d'ailleurs apportée sur les aides financières apportées par la CAF par rapport à l'ancienne convention. De même, les conditions d'utilisation du portail CAF partenaire et l'application de la charte de la laïcité demeurent inchangées. Ainsi, une délibération pour le renouvellement de ce partenariat permettra la signature de la nouvelle convention établie à cet effet. Les groupes ont eu les documents.
Donc, on poursuit. Des questions, des commentaires? Donc, je vais mettre la délibération au voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Dernière délibération, c'est une petite séance aujourd'hui, mais il y aura quand même deux questions importantes. Ensuite, donc c'est la 87, c'est la délibération SDESM. Voilà, donc là il s'agit d'approuver ou non l'adhésion des communes de Bois-le-Roi, de Bourg-en-Marlotte au sein du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Monsieur
Godard. Oui, merci, monsieur le maire. Suite à la délibération numéro 2019-10 en date du 14 mars 2019, du comité syndical du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le SDES, par laquelle l'adhésion des communes de Bois-le-Roi et de Bourron-Marlotte a été entérinée. Il est demandé aux communes adhérentes au syndicat de se prononcer sur cette décision. Selon l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, la commune dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du SDES, qui n'a pas eu lieu le 18 juillet 2018 comme c'est annoncé, non, le 14 mars 2019.
Voilà. Merci d'avoir rectifié cette erreur qui n'est pas dans le projet de délibération. C'est explicatif. Avons-nous des raisons de nous opposer à l'adhésion de ces deux communes? Non, personne ne veut défendre cette option-là, donc je vais mettre la délibération au voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Alors, nous avons deux questions diverses. Une qui fera l'objet d'une délibération sans doute au prochain conseil municipal, mais qui nous paraissait important déjà d'aborder aujourd'hui. C'est en vue des élections de mars 2020, la question donc de la recomposition du conseil communautaire de la Brie Nangissienne. Et donc de la répartition du nombre de sièges par commune. Voilà, je vais laisser la parole à Mme Lagoutte pour vous exposer cette information, puis on pourra échanger sur le sujet ensuite.
Merci, monsieur. Par deux courriers en date du 18 et 26 mars 2019, la préfecture de Seine-et-Marne a informé les collectivités territoriales de la nécessité à procéder à une recomposition des conseils communautaires dans l'année précédente, celle du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2020. L'article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit 2 hypothèses pour déterminer le nombre de sièges du conseil communautaire et leur répartition entre communes membres. Soit la représentativité fait l'objet d'un accord local à la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de l'EPCI, ou inversement, avec l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale, ce qui est le cas pour la commune de Nangis. Deuxième possibilité, soit la gouvernance est établie selon les modalités de droit commun. Au regard de ces échéances, le bureau communautaire de la communauté de communes de la Brie Nangissienne a travaillé sur un projet d'accord local et demande à la commune Nangis d'accepter un nombre de sièges communautaires minimal, soit 25,07% des sièges communautaires, au profit des communes du territoire moins peuplées. Ce sera détaillé après. Actuellement, et en application de l'accord local antérieur, la commune de Nangis dispose actuellement de 13 sièges communautaires, sur un total de 42 sièges, soit une représentation actuelle de 30,95% au sein du conseil communautaire contre 31,82% selon le droit commun. En effet, la commune de Nangis avait déjà accepté de réduire son pourcentage de sièges attribués et de ne représenter qu'un siège au sein du bureau communautaire. Dans la mesure où la population nangissienne représente 31,33% de la population globale du territoire de la Brie nangissienne et que la ville de Nangis va connaître un accroissement démographique conséquent dans les années à venir, les élus de la majorité n'ont pas souhaité réduire à nouveau le nombre de sièges communautaires attribués à la commune de Nangis. Si tel était le cas, alors, seules 6 communes, alors ce serait sur les 17 plus petites communes en fait, pas sur les 20 au total, puisqu'il y a 3 communes centres, Nangis, Mormont et Vermeil, et ensuite il y a 17 plus petites communes, donc ce serait seules 6 communes sur ces 17.
Même 16, hein. Voilà. Là, il y a 16 communes qui n'auraient qu'un seul site. Là, je peux vous dire la vie. Ça fait 6 sur 16.
Sur 16, voilà, bénéficieraient de 2 sièges au lieu d'un. Ainsi, pour toutes ces raisons, la municipalité a informé le président de la communauté de communes de sa volonté d'appliquer une répartition de sièges selon les modalités de répartition du droit commun, soit 14 sièges communautaires pour la commune de Nangis sur un total de 44 sièges.
Pour être complet dans l'information, je vais vous faire lecture de la réponse du président de la communauté de communes, Gilbert Lecomte. Donc nous avons fait une réponse de la municipalité parce que nous le demandons. Nous avons jusqu'au mois d'août en fait pour faire connaître notre position. Donc, nous aurons un autre conseil municipal où nous délibérons et où nous pourrons donc, voter à ce moment-là. Lettre donc en date du 10 mai 2019, monsieur le maire, pour faire suite au courrier du 18 avril 2019, les membres du bureau communautaire prennent acte avec regret de la décision de la majorité du conseil municipal de votre commune. Actuellement, la composition du conseil communautaire ne fait pas l'objet d'un accord local, mais est bien issue du droit commun. En effet, pour ce mandat, la communauté de communes, en application du droit commun, compte 42 conseillers communautaires, dont 13 pour la commune de Nangis, qui correspond à une représentation de 30,95%. La composition du bureau communautaire n'est pas soumise à acceptation des communes, mais à délibération du conseil communautaire. Ce dernier, lors de sa séance du 13 avril 2017, a majoritairement acté que le bureau soit composé d'un représentant par commune adhérente à la communauté de communes de la Brie d'Angicienne, quelle que soit sa taille. Hein, que la commune ait 8652 habitants comme Nangis ou qu'elle n'en ait que 181 comme Vampillet, on a droit à un poste au bureau. De par l'augmentation de la population municipale à l'échelle du territoire, la communauté de communes comptera 44 conseillers communautaires pour le prochain mandat. Votre décision prive un certain nombre de communes à pouvoir disposer de 2 sièges, comme pouvait l'envisager la simulation à 46 sièges avec accords locaux. Cette simulation vous permettait de disposer de 26,09% des sièges contre 31,82% selon le droit commun. Alors c'est pas 26,09, ce sera 25,07 en fait. Je vous informe que les membres du bureau communautaire ont souhaité que ce sujet soit inscrit en question diverse lors du prochain conseil communautaire qui a eu lieu jeudi dernier. Donc, cette question-là a été débattue. Voilà. Donc là où nous en sommes un petit peu dans nos échanges. Voilà. Je souhaitais ouvrir un débat entre nous, hein, y compris donc avec les élus de l'opposition qui n'ont pas eu à s'exprimer pour le moment. Janvier 2017, avait choisi effectivement de minimiser sa répartition. À l'époque, on aurait pu obtenir 49% du nombre de conseillers communautaires. Nous avions accepté une représentation à 28%. Donc proche du tiers, mais en dessous du tiers, parce que ça permettait à l'époque à chacune de toutes les communes d'avoir deux conseillers. Et c'est vrai qu'on pensait qu'être à deux au conseil communautaire, c'était plus facile, notamment pour rendre compte ou pour porter la voix des petites communes dans le débat. Dès le début, Nangy, contrairement à ce qui s'est fait dans les communes voisines, dans les communautés de communes voisines, la communauté de communes du Provinois, c'est Provins qui a la présidence. À Montreux, c'est Montreux. Nous avions effectivement décidé d'emblée que nous ne revendiquerions pas la présidence de la communauté de communes de façon à donner un certain gage de ne pas vouloir dominer la totalité du territoire. De même, nous avons accepté, même si à un moment donné, nous nous sommes dit que peut-être Nangy pourrait aller avoir deux sièges au bureau, ce qui permettrait aussi à Nangy d'être de mieux participer, en indiquant que le deuxième siège n'aurait pas d'indemnité, hein, c'était pas tout, ça nous a été gentiment refusé. Là, on nous demande de faire un effort. Oui, ça peut paraître inconsidérable, un siège de plus ou de moins, mais en même temps, ça modifie aussi considérablement la donne. Avant, nous étions sur ce sacrifice que nous avions fait pour l'ensemble des petites communes. Là, seuls 6 en bénéficieraient. Et donc, une commune qui aurait 826 habitants aurait 2 sièges, et celle qui en aurait 700 n'en aurait qu'un. Donc, il me semble que ce n'est pas non plus un système forcément très équitable. J'ai encore renouvelé devant le conseil communautaire la position, alors qui sera la position que je défendrai si à l'issue des élections de mars 2020, je suis encore maire. Si c'est un autre maire, une autre majorité, je ne vais pas m'engager à leur place. Est-ce que, de nouveau, Nangy ne revendique pas la présidence? Et j'ai même indiqué devant le conseil communautaire que je souhaiterais que ce soit également la position des deux autres grandes communes de la communauté de communes, hein, Mormant avec 4797 habitants et Vernuy-des-Temps avec 3226. Je crois qu'on a trouvé effectivement au sein de la communauté de communes une forme d'équilibre qui fait que, bien souvent j'ai le sentiment que à chaque fois que Nangy bouge le petit doigt, l'impression de vouloir tout manger. Nous ne sommes jamais qu'un gros village, on a 1000 habitants, avec un peu plus de moyens que petit. Voilà, c'était ce qui a fondé la position de la majorité. Il y a encore un peu de temps pour réfléchir, mais c'est important. 28. Vous avez des minorités de blocage qui sont à 30%. Et qui fait que lorsqu'une décision peut impacter une commune, comme la nôtre par exemple, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se voit imposer des décisions contraires à notre volonté, lorsqu'on est à 28%, ce n'est pas très compliqué d'aller trouver une ou deux communes avec lesquelles on peut avoir une minorité de blocage. Réduire à 25%, ça peut commencer à devenir un petit peu plus compliqué. Voilà, et je trouve qu'il est aussi du devoir du conseil municipal de Nangy de dire, voilà, nous sommes favorables à la coopération intercommunale, mais nous préservons aussi au sein de la communauté de communes les intérêts de notre commune. Voilà, donc là, on est une représentation à 31, 82 pour 31, 33. Et demain, Nangy sera au-delà de 31, 33, sans qu'il puisse être pendant 6 ans, on ne pourra pas modifier non plus la composition du conseil communautaire. Voilà, ça me semblait plus sage d'adopter cette position.
La question que je me posais aussi, c'était comme on a droit à des accords locaux, est-ce qu'il n'était pas possible aussi d'envisager à ce moment-là que Nangy, faisant un effort, de demander aux deux autres communes principales comme est-ce qu'il y a une possibilité ou pas ?
Non, la loi ne le permet pas. Parce que là, on va jusqu'au bout de la loi, c'est-à-dire que Nancy ne peut pas avoir moins de 25,07% de représentation au sein du conseil communautaire. Même chose pour Mormant, 13,90, et Verneuil-les-Temps, 9,35. Donc il y a un plancher. Hein, voilà. Ouais, c'est la loi nôtre, hein, mais celle-ci, elle est assez sévère. Donc oui, on aurait pu imaginer effectivement ce
ou en augmentant à ce moment-là, et c'est pas possible non plus d'augmenter de 4 conseillers non plus.
Vous avez tous ces droits de dérogation qui est complètement on pourra vous faire passer le tableau. On a une fourchette variable avec une borne basse, une borne haute. Nancy pourrait revendiquer 37,6% des sièges. Ça serait la borne haute. Ce qui ne modifierait pas forcément d'ailleurs la représentation des autres communes. Mais puisque si Nancy avait 37,60, Mormant aurait 20,85. Et Verneuil-les-Temps 14,02, la Chapelle-Gautier 6,35. Donc on aurait plus de sièges, mais ça permettrait effectivement d'avoir plus de sièges, plus de conseillers communautaires, et ces conseillers communautaires renforceraient plutôt Nancy que ça, on ne le demande pas. Hein, voilà, on propose de rester dans le droit commun qui finalement est assez équitable par rapport au poids de Nancy au sein de la population de la communauté.
Oui, je me permets aussi de rappeler que le conseil communautaire a aussi ouvert, je pense, et j'espère qu'il continuera à le faire en 2020, l'ensemble des commissions communautaires à l'ensemble des conseillers municipaux du territoire. Donc ceux-ci peuvent participer bien évidemment aux commissions. Et je rappelle aussi que le conseil communautaire est public, bien entendu. L'ensemble des conseillers communautaires, l'ensemble des habitants de la communauté de communes peuvent participer au conseil communautaire. Alors même s'ils ne sont pas autour de la table, on le sait, c'est... Voilà, il y a un représentant souvent des petites communes qui peuvent quand même participer à l'intégralité, en tout cas à l'écoute des débats, mais en tout cas avoir une participation active au sein des commissions.
J'ajoute que rien n'interdirait, même s'ils n'ont pas de voix délibérative, puisque chaque commune a donc son titulaire et a son suppléant. Finalement, que les suppléants des petites communes, des communes qui ne sont représentées que par un seul délégué, puissent être invités à participer au débat. Bon, voilà, ça permettrait, prenez une salle un petit peu plus grande, mais bon, allez, 10 personnes de plus, on va y arriver.
D'autant que j'ai souvent vu le président de la communauté de communes pouvoir donner la parole parfois à des personnes du public qui le demandaient dans les conseils communautaires, même si parfois il y a une suspension de séance. C'est déjà arrivé.
Faire une interruption de séance.
Mais c'est déjà arrivé. Je pense que tout le monde, quelque part, peut participer au débat.
Merci. D'autres interventions sur ce sujet ? Donc on reviendra en conseil municipal pour officialiser la position de Nancy sur cette question. Donc, autre question diverse, il s'agit du débat relatif aux dons pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Madame Jarry.
Merci, monsieur le maire. Dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, un important incendie s'est déclaré au niveau de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La structure a pu être préservée dans sa globalité grâce à l'intervention remarquable des sapeurs-pompiers qui ont tout fait pour limiter les dégâts. Les parties détruites, ravagées par cet incendie, concernent la charpente, les combles et la voûte de la cathédrale, sans oublier la flèche de bois et de plomb ajoutée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Considérée comme l'un des symboles du patrimoine français et de l'histoire de la France, la cathédrale Notre-Dame de Paris fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. notamment en tant que référence en matière d'architecture gothique française. Afin de collecter les multiples dons spontanés pour permettre la reconstruction des zones sinistrées, le gouvernement a mis en place un portail unique, fédérant les quatre seuls et uniques établissements habilités à recevoir des dons pour cette reconstruction. Le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation Notre-Dame, Avenir du Patrimoine à Paris, et la Fondation du Patrimoine, ainsi que la Fondation de France. Bien que le gouvernement ait annoncé la création d'un fonds de concours spécifique pour récolter les dons de la collectivité, des collectivités territoriales, celui-ci ne sera effectif qu'à partir de la promulgation de la loi. Alors, je rappelle que cette loi, parce que ce n'est pas mis à jour dans le texte initial, ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Il y a eu donc adopté en première lecture le 13 mai 2019 la loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Et cette loi sera examinée par le Sénat le 27 mai prochain. Donc la loi n'est pas encore promulguée en tant que telle, puisqu'il faut que les deux assemblées se prononcent. La municipalité de Nangy a spontanément souhaité participer, au moment voulu, à l'effort de reconstruction. Toutefois, au regard des circonstances exceptionnelles qui entourent la collecte des dons, avoisinant près de 1 milliard d'euros, en l'espace de quelques jours, il nous paraît nécessaire de s'interroger sur l'opportunité de maintenir une contribution de notre collectivité. En effet, de nombreuses collectivités territoriales ont renoncé à effectuer un don, priorisant les sommes prévues aux besoins des populations dans un contexte de pression financière exercée par le gouvernement. Donc, voilà, on vous soumet cette réflexion et cette information à l'ensemble des collègues du Conseil municipal. Je précise juste, si vous me permettez, monsieur le maire et chers collègues. Voilà, c'est parce que les choses sont à jour comme ça. Il y a eu effectivement un débat parlementaire, il y a un débat dans la société sur cette question. Je voudrais simplement vous informer que le gouvernement devra indiquer les origines et caractéristiques de chaque don dans un rapport au Parlement qui devrait intervenir d'ici la fin septembre 2020. Et que beaucoup aussi de parlementaires souhaitent qu'on prenne appui également sur des organismes publics pour avancer quand les diagnostics seront prêts dans la restauration et la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Je vous remercie.
Merci Madame Charlie pour cette présentation et de nous rappeler qu'il y a effectivement un projet de loi qui est en débat au Parlement. Alors, je vous propose de ne pas ouvrir le débat autour du projet de loi. Ça pourrait être intéressant de savoir s'il faut autoriser l'État à déroger à nos propres lois pour aller plus vite. Une véritable question. Et je vous propose aussi de ne pas entrer dans le débat de savoir s'il faut reconstruire Notre-Dame, je trouve, à l'état juste avant d'avoir brûlé, ou s'il faut la reconstruire avant Viollet-le-Duc, ou voilà. Simplement juste de se reposer la question de savoir si notre collectivité répond à l'appel qui a été lancé. C'est vrai qu'assez spontanément, je crois qu'on avait d'ailleurs publié sur la page Facebook l'idée que ça pourrait être décidé à ce conseil. J'avoue qu'on a été un peu touché par la réaction de beaucoup de Nangiciens, mais beaucoup de contributions en disant peut-être pas des choses tout à fait comme ça, et il semble que Nangy ait besoin d'argent, peut-être que l'argent des contribuables, en tous les cas les contributions qui sont versées à Nangy, puisque les contribuables nangiciens participent très très largement aussi aux contributions directement à l'État via la TVA, et peut-être pas absolument... C'est pas absolument indispensable de le faire, autant que c'est vrai que notre contribution restera toujours relativement modeste. Hein. Quand on apporte une aide, c'est en 2000, 2000, 2000, 3000 euros en un grand maximum, ce qui correspond à une participation proportionnée à la taille de la population. J'irai juste une information pour contribuer à notre réflexion. Nous attendions de l'État une subvention de 350 000 euros pour la construction de la restauration scolaire au Rossignol. L'année dernière, vous souvenez que nous avions demandé à les... Vous avez dit que c'était possible d'obtenir 600 000 euros, développement des 600 000 euros. L'année dernière, nous n'avions rien obtenu. Cette année, nous avons demandé 350 000 euros, puisqu'on nous avait dit que c'était possible de les obtenir. La notification de crédit est de 250 000 euros. Bon, j'aurais tendance à dire que peut-être que la participation de la collectivité est déjà actée et que nous avons donné 100 000 euros pour Notre-Dame de Paris. Oui, nous avions demandé aussi une aide financière pour nous aider donc à redévelopper ce bel espace au nouveau cimetière. Bon, ça nous a été refusé pour la délégation. Voilà, je vous laisse le soin de vous exprimer sur ce sujet, pour savoir. Il y avait une délibération qui était prête, donc on donne. On a retenu un peu la main dans les 11 ans. Et donc, s'il y a un avis favorable, ben, on inscrira donc au prochain conseil municipal la délibération. Si l'avis ne l'est pas, nous l'inscrirons. Qui souhaite s'exprimer sur ce sujet ? Madame
Giraud ? Oui. Moi, bon, je regrette bien sûr l'incendie de Notre-Dame. C'est un monument historique et ça fait partie du patrimoine français. Et c'est vrai que la restauration est obligatoire. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on est capable de dire, moi, je verse 100 millions pour la... Notre-Dame, pour la réparation de Notre-Dame. Et par contre, il y a plein de gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui dorment sur le trottoir. Il y a des gens qui meurent sur le trottoir. Parce que en 2018, il y a eu plus de 600 morts. On n'en parle pas de cela, mais il y a eu plus de 600 morts sur les trottoirs. Et donc, moi, j'aurais pensé qu'on pouvait donner 50 millions pour la Notre-Dame et 50 millions pour construire des abris pour ces personnes-là. Mais non, on donne 100 millions, moi, je suis d'accord. Il les donne. On laisse payer les riches, ils participeront à la restauration de Notre-Dame. Mais moi, je pense que l'argent qu'on a, nous, on peut le garder pour les gens qui en ont besoin sous Nancy. Tout d'Angicien confondu.
Merci, monsieur. Monsieur
Saussier. Oui, moi je peux le répondre. C'est un large débat. Mais je pense que Notre-Dame appartient à tous. Ça fait partie de notre patrimoine, aussi bien aux riches qu'aux pauvres. On va dire, bon, c'est effectivement un drame ce qui s'est passé, un drame pour le patrimoine. Alors, moi, ma réflexion, qui m'est tout à fait personnelle aujourd'hui, je veux dire, quel sera le coût de la restauration de Notre-Dame ? On n'a aujourd'hui qu'une très, très vague idée. 1 milliard, Madame Jérôme disait 500 millions, pardon. On n'en sait rien. Je veux dire, aujourd'hui, quel sera le coût de la restauration, on ne sait pas. Il y a eu des dons, des promesses de dons. Quels sont-ils? On parle d'1 milliard, etc. Dans les faits, aujourd'hui, on n'en a qu'une très vague idée. Moi, ma position, hein, qui m'est tout à fait personnelle et qui n'engage personne d'autre que moi, dans quelques mois, puisque bon, notre président bouscule un peu les choses, on aura peut-être une estimation, un projet. Aujourd'hui, on n'a pas de projet, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on va refaire, le pic qu'avait fait Viollet-le-Duc? Est-ce qu'il sera fait? aussi, on aura beaucoup de débats, hein, parce que, je veux dire, il suffit de se rappeler les débats qui ont entouré la construction de la pyramide, faite par l'architecte Pei, qui malheureusement est décédé il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on voit que cet édifice qui a choqué, comme la Tour Eiffel d'ailleurs a choqué à son époque. Hein. Voilà, ça c'est un autre débat, mais on ne sait pas aujourd'hui quel sera le coût de la reconstruction. Moi, je pense qu'au moment où effectivement la valorisation sera faite, il sera, à mon avis, temps de se poser la question. Et moi, je souhaite qu'effectivement la commune de Nangy y contribue. Mais aujourd'hui, je pense que c'est prématuré. Voilà, c'est mon avis.
Merci M. Souski. Alors, j'ajouterai un autre paramètre. Nous avons aussi un Nangy, pas Notre-Dame de Paris, mais quand même, nous avons une église, l'église Saint-Martin, qui est classée monument historique, et qui va nécessiter, elle a déjà subi trois opérations de requalification sur l'extérieur des bâtiments, qui a quand même bien protégé, mais on sait qu'il faudrait aujourd'hui conduire trois autres opérations à l'intérieur. Cette année, nous avons budgété 32 000 euros, rien que pour des études, rien que pour permettre à l'architecte Moulin qui, dans les années 90, avait donc établi un diagnostic et avait établi la liste des opérations à conduire, de bien réactualiser et de réactualiser, y compris financièrement, les choses. Donc nous allons, nous aussi, avoir apporté cela. Ce sont quand même plusieurs millions d'euros. Là aussi, sans être trop précis, puisqu'il y a des études qui, et qui sont aussi liées à ce que l'on va découvrir. L'idée est déjà effectivement de gratter l'ensemble des plâtres. Quand on va gratter des plâtres, on va peut-être découvrir des choses intéressantes qui vont peut-être nécessiter des moyens de conservation, on ne va peut-être rien découvrir du tout. Et puis il y a effectivement les chapelles qui sont à reconsolider, puisque à l'époque l'arcature a été faite avec des poutres de bois qui ont été revêtues, et que ces poutres de bois aujourd'hui sont en bien mauvais état. Donc il y a du travail à faire. Voilà, donc est-ce qu'on est en capacité, et nous, de supporter notre devoir, de maintenir en état le patrimoine local, qui fait aussi partie du patrimoine de l'humanité, et est-ce qu'on pourra également contribuer? Je suis assez d'accord avec M. Saussier sur l'idée qu'il n'y a peut-être pas urgence aujourd'hui à se mobiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à clarifier, notamment sur la question, et là, pour voir ce que dira la loi, si elle intervient sur ce sujet-là, sur la question de la niche fiscale. Parce que aujourd'hui, ce type de contribution permet d'obtenir une réduction d'impôt de 65%. Donc en gros, si vous mettez 100 000 euros, en réalité, vous n'en avez mis que 35 000. Et vous avez décidé que les contribuables allaient mettre les 65 000 restants. J'ai même été un tout petit peu choqué d'entendre un ancien ministre de la Culture, M. Ayagon, proposer d'ailleurs de défiscaliser à 90%. Là, on arrête. L'État utilisera l'argent des contribuables. Il faut faire attention. Alors, c'est vrai que ça. Du coup, c'est un peu touché, notre enthousiasme, en se disant, mais dans ce pays, on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. On s'aperçoit que l'argent, il y en a beaucoup, et qu'on peut l'utiliser comme cela. Donc je pense qu'on a peut-être intérêt d'avoir un débat ultérieur, plus apaisé, plus apaisé et portant effectivement sur un projet. Hein, et l'adhésion à ce projet fera que des citoyens, des collectivités, des entreprises, des fonds de pension peut-être, pourquoi pas, ou des fonds d'investissement y participeront. Madame Jarry.
Oui, monsieur le maire, merci. Non, c'est juste rapidement, c'est que je suis assez d'accord avec ce qui a été soulevé, surtout le temps de, hein, par rapport aux problématiques qui se posaient, car il s'agit du patrimoine, notre patrimoine. Et si un certain nombre de parlementaires, dans la grande diversité par ailleurs, souhaitaient qu'il y ait une commission, qu'il y ait un rapport qui soit fourni aux parlementaires sur la question des dons, au-delà du débat que M. le maire vient de rappeler, je crois que c'est bien aussi, parce qu'on ne peut pas surcharger encore nos concitoyens par rapport au fonds public nécessaire, et qu'en même temps, on laisse tranquille un certain nombre d'autres, parce qu'ils en ont beaucoup plus les moyens. Donc je pense que l'idée d'un débat.